On ne sera jamais seul, Fabienne.
Non, jamais. Allez, je vous embrasse les amis. À demain.
Salut, à
pour
demain.
Nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mercredi 9 février avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir commence par un ralliement.
Celui de l'ancien ministre Éric Woerth à Emmanuel Macron. Nouvelle prise de guerre de taille pour le camp présidentiel. Le député LR annonce qu'il ne soutiendra pas la candidate de son camp, Valérie Pécresse. Un départ qui fait des vagues. Le patron des Républicains a immédiatement demandé à Éric Woerth de quitter le parti. Les détails dans un instant avec le service politique. Un accusé qui parle à la barre du procès des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam, revient notamment sur son parcours des casinos à l'État islamique. Compte rendu d'audience à suivre. À suivre aussi, Orpea est-il en train de faire le ménage avant les enquêtes administratives et financières? Accusation portée aujourd'hui devant les députés par le journaliste à l'origine du scandale. D'autres journalistes, eux, s'inquiètent du manque de transparence du grand plan de relance européen post-Covid. Le secteur de la cosmétique qui renaît de plus belle, et quand la télé s'engage pour la gestation pour autrui, diffusion ce soir d'un téléfilm sur France 2.
À 18h15, un jour dans le monde, je vous emmène en Uttar Pradesh ce soir. Et pourquoi donc? Eh bien parce que c'est l'état le plus peuplé d'Inde, plus de 200 millions d'habitants, et quand l'Uttar Pradesh vote, c'est un laboratoire géant pour le reste de l'Inde et pour la politique nationaliste de Modi. C'est vraiment ça qui nous intéresse. À 19h20, c'est le téléphone sonne. Ce soir, nous voulons rendre hommage au Covid long et leur dire, en les écoutant, à quel point on sait que pour eux, le Covid est toujours bien réel. Surtout en ce moment, comme pour tout le monde, la pandémie commence doucement à être moins préoccupante. Pour les Covid longs, le quotidien, ce sont toujours des symptômes interminables, des gènes respiratoires. Une histoire sans fin. On va vous écouter, vous qui êtes touchés. Essayez de parler solutions aussi et traitements. Et ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il n'a cessé de critiquer le président pendant 5 ans et pourtant il le rejoint dans la dernière ligne droite.
Éric Woerth, député LR, président de la commission des finances à l'Assemblée, ancien ministre du budget de Nicolas Sarkozy, a donc décidé de rallier Emmanuel Macron et de ne pas soutenir son propre camp à la présidentielle. Emmanuel Macron, selon lui, est le mieux à même de défendre les intérêts de la France. Bonsoir Maxence Lambrec.
Bonsoir.
Éric Woerth fait cette annonce dans une interview à nos confrères du Parisien. Et il n'est pas tendre avec Valérie Pécresse.
On ne peut pas avoir un président débutant tous les 5 ans, estime-t-il. Face à de considérables défis, la France a besoin d'un président expérimenté. À ses yeux, Valérie Pécresse ne l'est donc pas assez. Et je n'adhère pas au discours de LR qui décrit une France nostalgique, recroquevillée sur elle-même. On ne peut pas naître obnubilé que par l'islamisme radical, même si c'est fondamental. Quid du discours économique, de la gestion des comptes publics qu'il a si souvent décrié comme président de la commission des finances de l'Assemblée le 21 septembre dernier à notre micro?
Les prémices, l'antichambre de l'élection présidentielle, ça peut pas être un concours de démagogie sur le dos des finances des Français.
Ce même jour, Valérie Pécresse accuse Emmanuel Macron de cramer la caisse. Aujourd'hui, Éric Woerth dit que c'est faux, qu'Emmanuel Macron n'a pas dépensé plus que les autres présidents.
Coup dur donc pour les LR et belle prise de guerre pour la Macronie qui se réjouit bruyamment, Maxence.
Bien, ses anciens camarades exultent de joie sur Twitter. « Je suis heureux pour la France », écrit Bruno Le Maire. « Bienvenue à Éric Woerth, grande voix de la droite gaulliste et libérale », ajoute Gérald Darmanin. Ce ralliement abîme surtout la droite plus qu'il ne nous renforce, tempère un ancien socialiste. L'idée d'Emmanuel Macron, c'est d'alterner jusqu'au premier tour les figures de gauche et de droite, peut-être bientôt François Rebsamen, Claude Barthelone, et il choisit toujours la date de retour de sa tournée diplomatique avant sa séquence nucléaire demain et avant le meeting de Valérie Pécresse dimanche. Demeure une grande inconnue, et si Nicolas Sarkozy basculait aussi? Je note qu'il n'a pas encore pris position, s'amuse son ancien ministre du budget. Comprenez, l'option est toujours sur la table.
Maxence Lambrec du service politique de France Inter. Autre ralliement à noter ce soir côté LR. Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, rejoint aussi les rangs macronistes. Le choix d'Éric Woerth passe évidemment très mal chez ses anciens collègues Mercato malsain. Woerth va chercher une autre gamelle et c'est sans compter avec la réaction du président des LR lui-même, Christian Jacob. C'est un parlementaire en fin de carrière, dit-il. Ses affaires judiciaires, je cite, ont sans doute pesé. Rappelons qu'Eric Woerth est mis en examen dans l'affaire Tapie pour concussion. Christian Jacob lui a donc demandé de quitter les LR. Eric Woerth annonce qu'il s'est mis en retrait du parti ce soir.
L'autre actualité, Sébastien, ce soir, ce sont les premiers mots de Salah Abdeslam sur les attentats du 13 novembre 2015.
Il avait fait vœu de silence pendant toute l'enquête et on ne savait pas s'il accepterait de prendre ou non la parole sur le fond. Début aujourd'hui de son interrogatoire sur les faits eux-mêmes. Et Salah Abdeslam a donc accepté de parler. C'est même un accusé loquace qui était à la barre aujourd'hui, commençant avec ses propos liminaires. « Je n'ai tué personne, je n'ai blessé personne ». Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
En direct du Palais de Justice de Paris pour ce premier jour d'interrogatoire. L'accusé est d'abord revenu sur les raisons de son engagement au sein de l'État islamique.
C'est ainsi qu'il s'était présenté dès le tout début de l'audience en combattant de Daesh. Il n'en a pas dévié aujourd'hui. Le monde occidental impose son idéologie et ses valeurs au reste du monde, lance-t-il en préambule. Et pour nous musulmans, c'est une humiliation. L'État islamique combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Et moi, ce combat-là, je le légitime. Calme, posé, poli, cheveux gominés et chemise blanche cintrée, Salah Abdeslam s'explique des heures durant et raconte ce qui a transformé le garçon fêtard, drôle, qui profitait de la vie, ainsi que l'a décrit son ex-fiancée, ce qui l'a transformé en membre des commandos du 13 novembre. La situation en Syrie, tout d'abord, c'est mon humanité qui m'a fait regarder vers la Syrie. J'avais de la compassion pour ces gens-là. Moi, j'étais ici en train de profiter de la vie pendant qu'ils se faisaient massacrer et je culpabilisais. Et puis son frère, Brahim Abdeslam, futur kamikaze du 13 novembre, Salah Abdeslam de 5 ans, son cadet, lui voue une admiration sans borne. J'avais plus confiance en lui que dans le savoir religieux, explique l'accusé depuis le box, lui qui n'a jamais vraiment fait ses prières assidûment. Alors quand Brahim lui demande des services comme il dit, Salah Abdeslam accepte jusqu'à enfiler une ceinture explosive qu'il renonce finalement à déclencher. C'est en tout cas, s'il ne l'a pas dit clairement à l'audience, ce qu'il a laissé entendre aujourd'hui.
Charlotte Piret en direct du Palais de Justice de Paris avec Benjamin Thiau. C'est l'homme par qui le scandale est arrivé, le journaliste Victor Castanet, auteur des Fossoyeurs. Il était auditionné aujourd'hui par la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale dans l'affaire Orpea. Ce groupe d'EHPAD privé leader mondial est accusé de maltraitance. Orpea visé par de multiples enquêtes. Orpea qui, selon le journaliste, aurait commencé à faire le ménage dans ces dossiers.
D'après des témoignages que j'ai obtenus ces derniers jours de la part de salariés encore en poste dans le groupe Orpea, le groupe serait en train de prendre un certain nombre de dispositions avant que ces contrôles n'aient lieu. Des membres du service RH se seraient rendus dans plusieurs résidences du groupe pour vérifier que tout soit en ordre. Des vacataires employés depuis plusieurs mois auraient été brutalement remerciés. Un certain nombre d'éléments auraient été supprimés des dossiers informatiques. Des consignes claires auraient été transmises à des directeurs d'EHPAD afin qu'ils fassent le ménage dans leur masse salariale. Ces salariés, qui m'alertent, s'inquiètent qu'une fois de plus, le privé démontre sa supériorité sur le public, que l'État, par manque de volonté, par lenteur ou par prudence, manque une nouvelle fois à sa mission. Une mission qui doit transcender tous les clivages politiques, toutes les générations et qui nous concerne tous, celle de protéger nos aînés.
Victor Castanet avec Hélène Chevalier. Ajoutons ce rapport rendu par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France sur l'EHPAD de Neuilly-sur-Seine d'Orpea. Instabilité de la gouvernance, turnover important des équipes soignantes, au final des dysfonctionnements et pas de maltraitance. Il y a de bonnes raisons d'espérer que le pass vaccinal soit levé fin mars, début avril. Déclaration rassurante du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, aujourd'hui, qui conditionne toutefois cette levée à une normalisation de la situation à l'hôpital. Gabriel Attal qui s'est aussi exprimé sur les convois de la liberté. C'est ainsi qu'il s'autoproclame, ces convois qui envisagent de rouler sur Paris ce samedi pour manifester contre les restrictions sanitaires. On est lucide, selon le porte-parole du gouvernement, parfaitement conscient qu'il y a une lassitude. Un discours loin de convaincre toutefois les participants à ces convois. Écoutez cette Landaise, Clara, prête à partir pour la capitale comme une centaine d'autres automobilistes.
On a passé beaucoup de temps à organiser tout ça. On espère que ça va bien se passer et de voir que les gens nous soutiennent et de voir cet élan populaire, c'est vrai que ça fait un peu monter les larmes. Alors il y a beaucoup de gens qui sont venus en voiture, certaines personnes ont des camping-cars ou des fourgonnettes aménagées.
Vous portez un gilet jaune, tous les gens qui sont ici sont des anciens gilets jaunes.
C'est vrai qu'il y a bon nombre de gilets jaunes parmi les participants du convoi, mais il y a aussi simplement des personnes qui ont été totalement outrées par le pass vaccinal et qui se sont dit, si on ne se réveille pas maintenant, on peut dire adieu à notre liberté pour toujours.
Voilà des propos recueillis par Julien Morcelli de France Bleu Gascogne. Malgré le masque encore obligatoire en intérieur, le maquillage est de retour en France. Le secteur de la beauté, en effet, a su rebondir après la crise sanitaire. Après une chute en 2020 due au confinement, pas de rouge à lèvres évidemment quand on reste à la maison, eh bien le marché est reparti très fort l'an dernier. Reportage de Philippe Père.
Après une année 2020 difficile, avec des pertes financières importantes, Lucille Brunette, qui tient un institut de beauté et de soins dans le centre de Paris, a vu ses clientes revenir immédiatement dès sa réouverture.
Dès la fin du confinement, les clientes ont été hyper fidèles. Elles sont revenues tout de suite parce qu'elles avaient un énorme besoin de bien-être. Elles ont même investi plus d'argent dans la beauté. Et nous, on l'a vraiment ressenti économiquement. Ça se traduit par 10-15% de chiffre d'affaires en plus par mois.
Cette forte demande pour les produits cosmétiques est globalement ressentie par l'ensemble du secteur. Emmanuel Guichard est le délégué général de la FEBEA, la Fédération des entreprises de beauté.
Les entreprises cosmétiques françaises se portent bien en 2021, d'abord grâce à l'export, puisque la France est leader mondial de la cosmétique, et après, sur le marché français, c'est un marché qui se maintient, qui a été très fortement impacté par la crise, mais on sent un appétit de consommer nos produits qui amène un redressement sur le marché français.
Grand gagnant, les groupes comme L'Oréal qui jouent sur les deux tableaux, français comme étrangers, en particulier sur des marchés très dynamiques comme celui de la Chine et des États-Unis.
Philippe Père.
Et on reste, Sébastien, sur les conséquences de la crise sanitaire avec cette question: où va l'argent du plan de relance européen?
Oui, ce plan gigantesque, près de 724 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne durement touchée par le Covid. Ces prêts, ces subventions sont par exemple censés permettre une Europe plus verte. Or, selon un collectif de journalistes d'investigation européens, c'est loin d'être clair et transparent, alors que la transparence était justement une promesse de la présidente de la Commission européenne. Les précisions de Julie Pietri.
La France va par exemple toucher 40 milliards, l'Espagne 70 milliards, la Roumanie 30 milliards. Mais cet argent servira-t-il vraiment à financer des projets respectueux de l'environnement? Pas si facile de le savoir, concluent les journalistes d'investigation qui ont posé des questions à la Commission sur les projets de 15 États européens. Alors que la transparence était bien une promesse de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, des centaines de documents restent en fait inaccessibles. La Commission refuse de les transmettre et avance diverses raisons. Par exemple, cela risquerait de nuire aux relations entre la Commission et les États, il faut les consulter avant, les discussions sont encore en cours, c'est donc confidentiel, ou plus simplement, les dossiers sont trop nombreux, nous n'avons pas assez de personnel pour vous répondre. Des arguments souvent qualifiés d'absurdes, de vagues ou de mal ficelés par les experts interrogés par ces journalistes d'investigation qui veulent tracer le circuit de l'argent pour dénoncer d'éventuelles fraudes ou opérations de greenwashing.
Julie Pietri.
Et sinon, pour terminer, Sébastien, quand la télévision s'engage pour la GPA.
La gestation pour autrui est un thème de société totalement absent de la campagne présidentielle, mais France 2 a décidé d'y consacrer une grande soirée ce mercredi avec, en première partie, un téléfilm, Qu'est-ce qu'elle a ma famille, librement inspiré du livre éponyme de Marc-Olivier Fogiel, sorti en 2018, dans lequel le directeur de BFM TV racontait son expérience personnelle, lui dont les deux filles sont nées grâce à la GPA. Une fiction didactique pour tenter d'éclairer un sujet encore mal connu, voire mal considéré, Alexandra Hakoun.
Céline et Mathieu sont agriculteurs, des fins de mois difficiles et une procédure d'adoption en cours depuis 5 ans qui jouent avec leur nerf. Un jour, on leur parle de GPA.
Si vous songez à une autre solution, Darius est un ami. Ils ont eu recours à la gestation pour autrui.
La GPA, ça ne vous intéresse pas, non, merci, non.
Une idée qui va pourtant faire son chemin et mener Céline et Mathieu à rencontrer Darius, cuisinier, et son compagnon, Julien, professeur d'anglais.
Au Canada, vous serez reconnu comme le père biologique de l'enfant, puisque la fécondation sera faite avec votre sperme. La femme porteuse, elle va devoir abandonner ses droits parentaux. De retour en France, là, il faudra demander une retranscription de l'état civil de l'enfant. Et ensuite, Céline, vous allez devoir faire une demande d'adoption.
Oui, ça, merci, ça j'ai lu. Je vais devoir adopter l'enfant de Mathieu, en fait.
Un parcours du combattant qui va mener ces deux couples sans rien en commun, si ce n'est leur désir d'enfant, au Canada, ensemble, avec leurs doutes.
Tu seras le père biologique de cet enfant. Moi, je serai quoi? Je serai rien.
Les mener à affronter leur famille aussi, pas toujours compréhensive.
Qui me dit que vous n'allez pas choisir le sexe et la couleur aussi? Tu m'enlèveras pas de l'idée que c'est une déviation.
J'imagine que tu veux dire une déviance.
Aucun point de vue n'est laissé de côté, pas même celui de l'entourage des mères porteuses.
T'étais d'accord?
Tu voulais que je dise quoi? Tu fais comme si ça changeait rien.
Comme si ça avait pas d'impact sur notre vie, sur moi, sur Jamie. Ça prend toute la place.
Une belle démonstration du rôle que peut avoir la fiction sur les grandes questions de société quand elles sont portées avec intelligence et des comédiens impeccables.
Voilà, Qu'est-ce qu'elle a ma famille, téléfilm diffusé ce soir sur France de 21h10, suivi d'un débat, puis d'un documentaire.
Sébastien Logénie, merci beaucoup. À tout de suite dans Un jour dans le monde pour votre vrai travail. Sous les radars, vous nous raconterez notamment l'histoire tragique de cette femme esclave. Ça se passe à Pékin, en Chine.